Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour cette émission. Aujourd'hui, je vous parle de la journée des engagés. Cette journée des engagés a lieu, comme chaque année, à peu près à cette époque de l'année, dans un lieu ou un autre de la région Cévennes, Languedoc, Roussillon. Et cette année, elle avait lieu au Mas des Abeilles, le centre protestant du Mas des Abeilles, rue de Bachas, à Nîmes. C'était samedi dernier, samedi 30 mai, de 10h à 16h. Donc, cette journée des engagés se propose de rencontrer ceux qui vivent en Cévennes, Languedoc, Roussillon et qui sont conseillers, conseillères, prédicateurs, prédicatrices ou qui sont engagés dans leur église d'une façon ou d'une autre. C'est un temps de rencontre avec plusieurs temps d'intervention, des ateliers et de... C'est un temps de partage, de réflexion, où les uns et les autres peuvent se retrouver et s'exprimer. Alors, cette année, il y a eu comme programme tout simplement un accueil, un temps d'aumônerie, c'est-à-dire un temps de méditation et de chant qui a été animé par Jean-François Brenne, président de la région Cévennes-Languedoc-Roussillon, qui nous a proposé un temps de partage, de méditation autour de l'engagement. Et puis ensuite, il y a eu l'intervention de Gilles Vidal, professeur à l'Institut protestant de théologie de Montpellier, intervention qui s'est faite sous forme tout d'abord de quiz et ensuite une intervention sur l'Église protestante unie de France. Alors, pendant le quiz, il nous a proposé différentes questions où nous avons répondu bien ou moins bien, ça dépendait des questions, au sujet de l'histoire et ce qu'est l'Église protestante unie maintenant. Et ensuite, donc, il nous a proposé les différentes étapes qui ont constitué cette fusion des réformés et des luthériens pour devenir l'Église protestante unie de France. C'est cette partie-là de l'enregistrement de la journée que je vous proposerai d'écouter dans quelques instants, mais je poursuis les interventions de la journée étaient sous forme d'ateliers. Il y avait trois ateliers, un atelier communication, un atelier préparer et présider un culte et un atelier plutôt conseil presbytéral pour tous les conseillers qui se posent des questions et qui veulent établir et travailler ensemble en conseil. Voilà, donc c'était des interventions très intéressantes et très riches de la part de tout le monde. Ensuite, et bien sûr, il y a eu un temps aussi de repas ensemble. Et à la fin, retour des interventions et bien sûr encore un petit temps d'aumônerie à la fin de la journée. Alors, je vous propose, avant d'écouter Gilles Vidal, d'écouter un temps de musique, un chant qui avait été composé et paroles et musique par Éric Gallia lors du Grand Kiff en 2013. Et ça s'intitule « Vous êtes lumière du monde ».
Éternel, une lumière au fond des cœurs, Cette lumière du monde, une ville construite sur une montagne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau, non. On la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Votre lumière aussi doit briller devant le monde, alors les autres verront tout le bien que vous faites et pourront chanter la gloire du Père dans les cieux.
Cette lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne et nous ouvre à la joie. Témoin de notre foi, il nous unit à lui, éclairé par le Saint-Esprit. Il m'entraîne dans la ronde, il m'envoie dans le monde vivre le grand amour, le grand kiff encore et toujours. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note.
Exercice un peu étrange pour un professeur d'histoire, on va remonter le temps. Vous savez, comme le saumon remonte la rivière. Quelques étapes. 2013, donc, le synode national de l'Église protestante unie, sous-titre « Communion luthérienne et réformée » se tient à Lyon. Tous les mots sont importants. Église protestante unie et communion. On va voir pourquoi. 2001, d'où vient cette idée? Alors, c'est vrai que ça vient, ça part d'une paroisse luthérienne, puis du Synode national réformé de France, et en 2003, du Synode général de l'Église évangélique luthérienne de France, qui demande une plus grande visibilité de la communion entre ces deux églises. D'accord? Ça part donc au début du XXIe siècle. C'est pour ça que ma question a été vicieuse tout à l'heure. Voilà. En 2005, l'inspection luthérienne de Montbéliard et la région Est de l'Église réformée de France expriment la volonté d'une région luthéro-réformée, parce que cette région de Montbéliard a toujours été une cohabitation, région de cohabitation entre réformés et luthériens. Et puis en 2006, j'ai un petit décalage, mais c'est à peu près au même moment, il y a la création de cette fameuse union dont je parlais entre l'Église luthérienne d'Alsace et l'Église réformée, l'UEPAL, l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Ça aurait pu être un modèle que notre Église aurait tout à fait pu choisir. On garde deux églises et on fait une assemblée commune. Non, on a choisi le modèle de la communion. C'est-à-dire qu'on croit la même chose. C'est ça la communion. On partage les mêmes choses. On partage, aujourd'hui on parle de l'engagement, on partage la parole, on partage le pain, on partage les ministères. Ce sont les trois points fondamentaux. Remontant le courant, le texte qui est vraiment fondateur et fondamental, c'est la Concorde de Leuenberg, 1973. Leuenberg étant une communauté de diaconesses dans la région de Bâle, où se réunissent des responsables d'église. Et dans cette communion de Leuenberg, on tombe d'accord entre luthériens et réformé sur beaucoup de choses, mais trois points, si vous voulez, principaux, qui sont...
Vous avez à disposition le texte de la Concorde.
Voilà. Vous souhaitez. Trois points qui sont principaux, c'est le baptême et la scène. Luthérien et réformé, nous sommes d'accord, les querelles du XVIe siècle n'ont plus lieu d'être, parce qu'on n'a plus les catégories de pensée du XVIe siècle sur le baptême, sur la scène, et surtout sur la question des ministères. Un ministre ordonné dans une église peut prêcher et administrer les sacrements dans une autre église. Pourquoi on en vient là? Pourquoi on vient à cette idée en 1973? Parce qu'on rappelle des événements du passé, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, notamment le combat contre le nazisme. On ne peut pas comprendre le texte de Leuenberg qui dit, c'est une interpellation, mais au fond, vous les Allemands là, entre... Pendant la période hitlérienne, entre luthériens et réformés, vous avez bien été capables de lutter ensemble contre le nazisme. Qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, vous soyez ensemble dans une unité, non pas seulement une unité théologique, spirituelle, mais aussi, c'est la troisième Le troisième point important, une unité institutionnelle. Si on est d'accord théologiquement, eh bien, la Concorde de l'Orient dit qu'il faut que ça se voit au niveau de nos règlements d'Église. D'accord ? Jusqu'à présent, les confessions de foi, jusque les confessions de foi du XVIe et du XVIIe siècle, vous aviez toujours une clause à la fin que celui qui ne croit pas à ce qui était écrit là soit anathème. Anathème, c'est-à-dire c'est un mauvais croyant, il est rejeté, un mécréant. Oui. Il y a aussi des confessions de foi qui disent « Si jamais on s'est trompé, veuillez, si vous voulez, s'il vous plaît, envoyer un email au responsable et nous examinerons votre question. Hein. » Il y a aussi les deux. Hein. Voilà. Mais, en gros, la Concorde de l'OMB dit « Ce temps-là, c'est fini. On ne peut plus s'anathémiser les uns les autres. » Donc c'est un tournant majeur. Et si je reviens dans le temps, les Français étaient déjà dans cette optique d'un rapprochement entre luthériens et réformés. En 1968, sont adoptés un texte qui est un peu passé à la trappe, qu'on appelle les thèses de Lyon, sur lesquelles les quatre églises, ERF, Église réformée, et Église évangélique luthérienne de France, Église d'Alsace, de Lorraine, réformée catholique, et luthérienne, se mettent d'accord sur la parole de Dieu, les Écritures, la parole de Dieu, le baptême et la scène. Hein, c'est les thèses de Lyon. Et bien sûr, il faut aussi voir qu'on est dans cette période de Vatican II où on croit que c'est la période favorable au rapprochement. Beaucoup de catholiques pensent que leur Église va changer. Et elle a changé. Et qu'on va se rapprocher des protestants. C'est le grand moment de l'œcuménisme. Et beaucoup de protestants, y compris des pasteurs, pensent qu'on va se rapprocher des catholiques et qu'on pourra faire une seule Église. Il y en a qui pensaient ça. Et on voit les aubes blanches hein, dans les paroisses. Il y a aussi des pasteurs réformés qui commencent à porter des robes blanches au risque de choquer leur paroisse, leur communauté. Hein. Parce qu'on est dans cette optique, vous voyez, dans les années 1960, on a déjà cette idée d'union, hein, d'union même au-delà du cercle luthérien réformé, d'union même avec les catholiques, c'est pas impossible. Et puis Georges Casalis, je vous ai mis, parce que ce sont des personnages qu'on a un peu oubliés, Casalis pas trop, mais Henri Bruston était professeur à Aix-en-Provence, à la faculté d'Aix-en-Provence. Il avait refusé l'union des réformés en 1938, et donc il était parti, c'était un calviniste, mais dans les années 60, eh bien c'est lui, en 68, qui est le président de la commission théologique, qui va écrire ses quatre thèses. Donc c'est un personnage qui est très très important, une figure majeure qu'on a un petit peu oubliée. Et puis, si je remonte, bien sûr, il y a le Conseil œcuménique. C'est le Conseil œcuménique des Églises en 1948 qui est créé. C'est lui qui, dans les années 60, met à l'étude, demande à toutes les Églises en Europe d'étudier baptême, Eucharistie, ministère. Vous voyez ces trois points qui font débat au sein des protestants. Donc, on peut dire que notre union nationale, notre volonté de fusion, d'union en France, elle est aussi bien motivée par ce qui se passe au niveau international. Hein. Donc c'est une injonction qui vient aussi du Conseil œcuménique des Églises. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, vous avez bien sûr la résistance en 1941, pendant la guerre, des luthériens et des réformés hein, contre le régime de Vichy. Là aussi, ça crée des liens. Hein. Je ne peux pas développer ça, je n'ai pas le temps. Mais la confession de Barmen en 1934, c'est le point de départ. Donc, des luthériens, des réformés allemands se mettent d'accord contre la politique de Hitler, qu'on appelle la mise au pas, et surtout contre le décret arien. Hitler prend un décret comme quoi tous les fonctionnaires doivent prouver qu'ils sont ariens, que ce sont de bons Allemands. Tous les fonctionnaires, on n'a pas ça nous en France, mais ça veut dire les pasteurs compris. Les pasteurs étaient des fonctionnaires. Assimiler les professeurs de théologie étaient des fonctionnaires. Oui. Et du coup, l'Église dit non. Alors, on croit que c'est la résistance, le combat pour les Juifs, etc. Pas du tout. Ça, c'est la résistance française qui va s'engager pour défendre les Juifs français et étrangers. La confession de Barmen, c'est une question de droit ecclésiastique. L'État, le chancelier Hitler, n'a pas le droit de modifier la discipline de nos églises qui est fondée sur les confessions de foi. Voyez ? Donc c'est pas du tout le même ressort. Le résultat est le même, c'est la résistance à l'oppression nazie. Et donc c'est ça qui va cimenter en Allemagne, et c'est ça qu'on va retrouver après au niveau européen, vu le poids des églises aussi allemandes, en 1973 à Nuremberg. Et si je remonte dans le temps, nous avons nous en France un moment important, qui est bien sûr la création de l'église réformée de France à Lyon, qui est l'aboutissement quand même d'un échec de 1872, les réformés n'arrivaient pas à se mettre d'accord, je vais y revenir. Donc vous avez là le cortège des pasteurs défilant à Lyon, et vous avez en dessous le temple de Saint-Jean, des Billettes à Paris, donc qui est l'église évangélique luthérienne de France, qui se crée à Paris en 1872, avant la séparation des églises et de l'État, qui voit donc la création de la Fédération protestante de France et des différentes unions d'églises. Je vais y revenir. 1872, les luthériens sont obligés de s'organiser. C'est suite à la guerre franco-prussienne, bien sûr. Il y a des luthériens à Paris, il y a des luthériens à Montbéliard. Les luthériens de Paris et de Montbéliard restent français. Les luthériens d'Alsace, les pauvres, les malheureux d'Alsace et de Moselle redeviennent allemands, ou deviennent allemands. Et donc on s'organise en synode, on crée, voilà. Alors les luthériens étaient déjà structurés bien sûr en paroisse, mais ils se structurent en synode et ils ont une forte, à l'église des Billettes, il y a une forte tradition, puisque c'est la journée de l'engagement, ils ont la mission intérieure. La mission intérieure qui remonte au pasteur Meyer, donc dans les années 1830, qui sont une institution, c'est un réseau d'entraide extraordinaire. Là, les luthériens auraient des leçons à donner, en tout cas parisiens, pour les réformer, pour l'accueil de ces populations luthériennes qui viennent souvent d'Alsace ou d'Allemagne au XIXe siècle, qui viennent s'installer à Paris au moment où le baron Haussmann, lui-même luthérien, fait ses grands travaux. D'accord ? Bon. Et puis, 1872, j'en ai parlé, et voilà, Violaine, j'y arrive, c'est ma dernière diapositive. Si je remonte encore dans le temps, voyez, qu'est-ce qui s'est passé avant 1938? Alors, 1938, c'est l'union des réformés. Est-ce que j'ai un pointeur? Là. Ici, là. Vous voyez cette union, mais en fait, elle remonte, il faut revenir 80 ans en arrière, où il y a ce synode qui entend mettre d'accord les églises réformées. Les églises réformées n'ont pas eu de synode depuis des synodes clandestins après la révocation. Il y a eu quelques synodes là qui ont repris. Mais, si vous voulez, Napoléon Bonaparte, qui donne le droit aux protestants de réexister en 1802 avec les consistoires, n'a jamais voulu autoriser de synode national. Plus exactement, les protestants, les réformés n'ont jamais osé demander parce qu'ils savaient que ce serait refusé. Il y a eu des synodes régionaux dans le Dauphiné, dans la région de Valence où il y a beaucoup de protestants. Il y a eu des synodes régionaux, voilà, mais pas de synodes protestants. Donc les réformés sont handicapés. Et pour la première fois, avec après la guerre et avec la Troisième République, ils vont avoir l'autorisation de tenir un synode. Malheureusement, c'est le synode qui verra la division entre deux courants théologiques. Alors je vous ai mis des couleurs, le courant évangélique qui va être en rouge et le courant libéral qui va être en bleu là-haut, et les neutres, on va dire, ceux qui ne veulent pas prendre position, ceux qui vont s'orienter aussi peut-être vers le christianisme social, un troisième courant que j'ai mis en vert, la couleur de l'espoir, de l'espérance, voilà, le centre. À l'époque, au XIXe siècle, vous voyez le tableau là. Le tableau, il est dans la faculté de Montpellier. C'est un descendant de M. Bruston qu'on a vu tout à l'heure qui a donné ce tableau, qui représente le synode de 1872. Ah oui. C'est très loin, vous ne le voyez pas, j'aurais dû l'agrandir, mais les délégués sont en hémicycle. On se paraît à l'Assemblée nationale. Le modérateur, il est là-haut, on dirait le président de l'Assemblée nationale avec le bureau. Et à cette époque-là, on parlait de la droite, du centre-droit, du centre-gauche et de la gauche. La droite étant les évangéliques, le centre-droit, les évangéliques modérés, le centre-gauche, les libéraux modérés, la gauche, les radicaux extrêmes, extrémistes ou radicaux. Et on parle plutôt de... Et donc, c'est un succès parce qu'on arrive à se mettre d'accord pour convoquer un synode, mais c'est un échec parce qu'on n'arrive pas à une confession de foi commune qui serait acceptée à la fois par les évangéliques et les libéraux. Exactement. Et donc, il va y avoir des assemblées parallèles. Donc, vous voyez les routes là. Alors, parfois, ça se croise, ça se recroise. Il y a des paroisses qui se disent, mais nous, on s'est trompé, on va quand même adhérer. Vous voyez, il y a des petites remontées comme ça. Et il faut attendre 1933 pour qu'il y ait un comité entre les réformés libéraux et les réformés évangéliques, un comité mixte des deux églises qui se disent, bon, là, il faut qu'on fasse une église réformée, unie. On n'en est pas encore à réformée et luthérienne. C'est l'union des réformés déjà entre eux. Donc vous voyez, on revient de loin, de loin, de loin. Et encore, j'ai démarré à 1848 avec la création des églises libres. Eh bien, je vous ai bien assommé, je suis content. Merci.
Chrétien, Jésus te voit, même dans la tempête, il te tient. Quand les ombres te guettent et que tu perds la foi, souviens-toi qu'il sera toujours là. Prends courage, mon frère, mène le bon combat pour la justice et l'amour dans chaque pas. Prends courage, ma sœur, mène le bon combat, car même dans la nuit, la lumière brillera. Avec Jésus à nos côtés, on ne flanchera pas. Prends courage, chrétien, Jésus sera toujours là. Même les montagnes se plient sous sa voix. Quand les vagues te submergent et te font perdre pied, chrétien, Jésus te gardera. Les épreuves de la vie peuvent te rendre là, mais n'oublie pas, chrétien, il marche à tes pas, son amour infini éclaire ton chemin. Dans les moments sombres, il te tendra la main. Quand le doute t'attrape et l'espoir semble loin, prie fort et garde la foi jusqu'au matin. Porté par sa grâce, tu trouveras l'abri dans les bras de Jésus, ton âme est affranchie. Prends courage, chrétien, Jésus sera toujours là. Même les montagnes se plient sous sa voix. Quand les vagues te submergent et te font perdre pied, prends courage, chrétien, Jésus te gardera.
Vous êtes bien sur le 103.2, vous nous écoutez en DAB+, ou peut-être en podcast, en tout cas vous écoutez Radio Alliance Plus. Si vous allez sur notre site, vous trouverez toutes nos émissions. Et pour nous, eh bien, c'est l'heure de terminer cette émission. Après avoir écouté Gilles Vidal qui nous parlait de l'historique de l'Église, de la constitution, de la fusion de l'Église protestante unie, de France, et qui cela se passait pendant la journée des engagés qui a eu lieu samedi 30 mai dernier au Centre protestant du Mas des Abeilles à Nîmes. Eh bien, je termine en vous donnant trois petites informations importante, puisqu'il s'agit de notre Assemblée Générale, le 9 juin à 18h, Assemblée Générale de Radio Alliance Plus. Venez nous retrouver à la Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson. Et puis le 15 juin, une autre Assemblée Générale à 18h30 à la Maison Diocésaine de Nîmes. C'est l'Assemblée Générale de l'Université Populaire des Religions. Là aussi, vous êtes tous cordialement invités. Et pour terminer, je vous invite à un spectacle qui aura lieu le 18 juin, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Spectacle qui aura lieu au Petit Temple à 20h et qui s'intitule « Le Grand Écart » ou « La Révocation de Lady, L-A-D-Y, de Nantes ». Un spectacle décoiffant, drôle et engagé qui sera joué par Jean-Marie Perinetti. Et bien voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire au revoir, chers auditeurs, chères auditrices. Passez une bonne semaine, à bientôt.